L'idée de la marque, c'est justement ce ras-le-bol de me dire, en fait, je suis en train de pas du tout faire un truc dont je suis le client. Je suis pas du tout en train de créer quelque chose qui a de l'utilité sur le marché. Ça, c'est un truc que j'ai identifié assez tôt dans mon envie d'entreprendre. C'est que j'avais pas du tout envie d'entreprendre pour faire du cash, être blindé et prêt à faire n'importe quel business. Moi, je voulais faire un business qui ait du sens, où je me dis je vais servir à quelque chose.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir William Mauvette, le fondateur d'Asphalt. Salut William.
Salut David.
Alors William, est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais, bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content
merci
d'être là.
Accepté. Et
donc, je m'appelle William Ovette, j'ai 33 ans, marié, père d'un petit garçon qui a 8 mois bientôt, et installé à Bordeaux depuis 2 ans et demi, où mon équipe de la marque Asphalt m'a rejoint en septembre. Donc là, c'est tout récent. Et Asphalt, ça fait 3 ans qu'on existe. C'est une marque de prêt-à-porter pour hommes en ligne dont on va parler pas mal, je pense, qui s'est fixé pour mission de mettre la qualité sur le dos d'un maximum de mecs, donc de rendre la qualité accessible, ce qui est difficile dans le prêt-à-porter. Ça fait 3 ans et on a aujourd'hui 30 000 clients, on est une quinzaine de collaborateurs et on a produit, je crois, 120 000 vêtements en 3 ans. Donc voilà où on en est à
super.
Peu près.
Bon, moi, Asphalt, c'est une marque que j'ai découvert, pour être honnête, il y a pas si longtemps. Je crois que c'était avec le costume ouais. parfait de cet été. Ouais. J'avais vraiment découvert cette marque. Après, j'ai découvert tout cet univers qui est assez différent, je trouve. Moi, je suis assez fan des marques qui proposent un produit. Par exemple, le pantalon,
ouais, okay.
J'adore. J'achète leur pantalon. Et vous, avec okay. ce concept, bref, on en reparlera, mais c'est assez différent et c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, avant de parler d'Asphalt, est-ce que déjà tu peux nous dire ce qui t'a donné envie d'entreprendre
ouais.
plus tôt ? Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, en sortant d'école de commerce, je vais bosser comme tout le monde et avoir
mon ouais, ok. Écoute, j'ai eu la chance de savoir assez tôt ce que je voulais faire, pas à 10 ans non plus, mais j'avais, je pense, peut-être 21, 22. En fait, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que bon, en cours, j'ai fait un bac ES, tu vois, j'étais assez désintéressé de l'école et les cours d'éco, j'adorais ça, c'était les seuls cours qui vraiment me faisaient triper, donc tout de suite, j'ai senti, un goût pour l'économie et du coup ça m'a orienté vers des études éco où j'ai fait la fac et ensuite une école de commerce et dans ce parcours là en fait très tôt je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait beaucoup c'était les réussites entrepreneuriales, c'était les parcours de grands entrepreneurs et j'ai eu un moment un peu déclic aussi sur la lecture d'une des premières bios de Richard Branson, donc je devais avoir 22-23 ans et vraiment là pour le coup j'ai fini le bouquin, je me suis dit ok c'est sûr j'ai envie d'être entrepreneur et si ma vie peut s'approcher de celle de ce mec-là, ouais. j'aurais gagné.
Yeah, c'est incroyable. et du coup concrètement avant de monter donc ta première marque 6&7, est-ce que tu avais déjà eu des expériences qui se rapprochent de l'entrepreneuriat ? Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais est-ce que t'achetais, revendais des trucs pour tes camarades ou des choses comme ça ?
Non, franchement, pas du tout. J'avais un peu envie à des moments de faire ce genre de truc et puis finalement je l'ai jamais fait. Non, pas vraiment d'expérience entrepreneuriale. Honnêtement, le seul truc un peu entrepreneurial que j'ai pu faire, c'était genre j'étais dans une asso de ski et j'organisais des week-ends de ski dans mon école de commerce. Donc c'était quand même un peu de, enfin voilà, c'était de l'orga, fallait monter le truc, etc., trouver un lieu. Mais non, à part ça, j'avais jamais réellement entrepris. J'essayais de réfléchir à d'autres trucs, même petits, mais
Ok.
non, honnêtement, je pas
Donc là,
grand-chose.
on est en 2011. Tu t'es diplômé de l'EDEC
Ouais.
et tu décides de monter ta marque. Alors raconte-nous comment ça s'est passé. Déjà au tout début, tu faisais comment financièrement, sur qui t'as compté, voilà, dis-nous tout.
Ouais, ok. Et écoute, ouais, effectivement, donc je commence à bosser sur ce projet en parallèle de ma dernière année à l'EDEC parce que c'est surtout en césure, donc dans mon année où je fais deux stages, ça va être en 2009-2010, où je me rends compte que d'une part mon goût pour l'entrepreneuriat s'accentue. Je commençais à lire des blogs sur les entrepreneurs, etc. Je me souviens que à l'époque Loïc Lemaire était un des premiers blogueurs qui était dans la vallée et tout, ça me faisait rêver. Et en parallèle de ça, j'étais pas du tout épanoui dans mes tafs. J'étais dans des boîtes qui étaient cool, j'avais des postes sympas, il y avait plein d'autres stagiaires, c'était cool, mais vraiment j'étais pas heureux quoi. Et je me suis dit putain, mais c'est un peu l'enfer, et genre j'ai vraiment pas du tout envie que ma vie ça soit ça. C'était pas du tout adapté à moi. Et donc c'est comme ça que ça vient. Et en parallèle de la dernière année d'école, je commence à bosser dessus et je commence à faire un truc qui est pas forcément très conseillé, c'est-à-dire que je commence à beaucoup beaucoup réfléchir, à faire des business plans.
Comment tu le fais ton
Je passe
business
beaucoup de
plan?
temps sur de
C'est-à-dire
la
que
théorie
tu
en fait.
passes du temps à chercher des fournisseurs? Parce que un business. Non?
Non. Au début, vraiment, et c'est ce que je fais pas, c'est je fais pas du concret, je fais de l'abstrait et c'est pas bon. C'est-à-dire que je vais sur des sites pour apprendre à faire des business plans. Donc je fais un deck de 40 pages pour expliquer mon business en faisant des prédictions financières.
Et donc,
Enfin, tu vois. Alors que j'avais même pas de fournisseur.
raconte-nous ce business que tu voulais faire. Comment t'as eu l'idée? Donc,
Ouais.
d'acheter des pulls en
Alors
maille
en fait, l'idée, elle m'est venue. J'avais donc cherché dans mes stages, comme je m'emmerdais, je cherchais des idées de business. Et en fait, j'avais plein d'idées, des trucs de start-up, de faire un réseau social, enfin tu vois, des trucs assez basiques. Et en fait, j'avais cette idée de faire une marque de pull qui est peut-être encore plus basique, mais c'est la seule idée sur laquelle vraiment je m'accrochais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours bien aimé les vêtements, j'ai toujours bien aimé m'habiller. Il commençait à ce moment-là à y avoir des petites marques qui se lançaient, et je trouvais ça assez intéressant ce qu'ils proposaient. Je sentais qu'il y avait une approche un peu différente avec les réseaux sociaux qui commençaient vraiment à cartonner, donc ça faisait des coms un peu différentes. J'aimais beaucoup la com et globalement même le produit de marque comme Michel Augustin. Donc j'aimais les marques, j'avais envie de faire un beau produit, et finalement ça me ressemblait plus de faire ça que de lancer un réseau social quoi.
Et donc là, tu as cette
Et
idée-là, tu es en stage
ouais.
et tu cherches à faire un business plan. Mais du coup, tu mets quoi comme chiffre dans ce business plan si tu vas pas devoir des fournisseurs?
Je dis que non, si je commence tout de suite à quand même essayer de rencontrer des gens de près ou de loin qui bossent dans l'industrie pour qu'ils me donnent un peu des assez vite, je me dis ok, je vais faire un bon pull en laine mérinos. Et du coup, je commence à essayer de trouver des gens qui sont dans ce milieu-là et qui peuvent me dire combien ça coûte de faire un bon pull en laine mérinos. Donc du coup, j'ai un prix d'achat à peu près, tu vois. Et moi, j'avais à peu près un prix de vente aussi en tête. Et derrière, je fais des projections, genre, bah, en France, c'est des marques pour hommes. En France, il y a 30 millions de Français ou 35 millions d'hommes. Il y en a 10 millions dans ma cible et je vais prendre 0,1%
Ok,
du marché. Enfin, c'est comme ça.
dans ce sens-là, c'est rarement, ça marche rarement.
Exactement.
Ok, et du coup, toi, ton concept, c'était d'acheter un bail, d'ouvrir ton magasin normal, ou il y avait déjà une volonté de le faire en
Non,
ligne?
l'idée au tout début, c'était de me dire on va faire un site web
D'accord.
et on va vendre online et on va vendre à des ventes pour les copains, etc. Et donc non, au début, c'est plutôt l'idée au tout départ, elle est quand même plutôt un peu web parce que je m'intéresse à l'entrepreneuriat, mais aussi beaucoup aux startups et au fond de moi, j'ai un peu envie de faire un truc différent, tu vois, j'ai pas envie de faire un truc tout classique et tout. Et voilà, donc l'idée au départ, c'est ça. Dans les faits, ce que je vais lancer, ça va être très classique et très peu web, mais
Donc là, tu as cette idée-là, donc qui mûrit en stage, qui mûrit, j'imagine, en dernière année de l'EDEC. Tu finis et là, tu te lances avec un associé. Comment tu le rencontres?
exactement. C'est un pote de promo à l'EDEC et c'est un pote avec qui on parlait pas mal d'entrepreneuriat. Lui aussi aimait bien ça. J'avais deux, trois potes avec qui on était assez chaud. Tu vois, on faisait des
Ouais.
startups week-end, on aimait bien. Enfin voilà.
C'est quoi les compétences que lui avait que toi, t'avais pas? Est-ce que vous étiez complémentaires?
Ouais, bah moi j'avais senti quand même que je serais meilleur sur le côté produit commercial marketing et chercher du coup un profil un peu structurant.
Ok.
Donc plus tu vois
Logistique.
compta, finance, levée de fonds, ce genre de choses.
Ok. Et là, vous êtes diplômé, donc vos copains, ils vont bosser en conseil, en marketing, etc. Et vous, vous vous lancez. Concrètement, ça se passe comment? Vous vivez où? Vous retournez vivre à Paris? Vous étiez parisiens tous?
Ouais, on est parisiens tous les deux. Nos études, on les faisait à Nice. On retourne chez nos parents, effectivement. Et on bosse. Les premiers bureaux, c'est chez ma grand-mère.
D'accord.
Et assez rapidement, au bout de 2-3 mois, on part dans le sous-local de la galerie d'art du père de mon associé, qui était dans le 16e, où il avait une petite pièce de 10 mètres carrés, où on installe notre vrai premier bureau, parce que là, on avait, c'était pas chez ma grand-mère, quoi, c'était un vrai bureau à nous. Et voilà,
on mange moins bien, j'imagine, que chez ta grand-mère.
Ouais, bon, de toute façon, on mangeait pas bien déjà dans l'école de commerce, donc on continue à pas bien manger, mais ça nous va.
Et là, qu'est-ce que tu fais? Donc, t'as cette idée, t'as des bureaux, mais comment est-ce que tu trouves ton fournisseur? Comment est-ce que tu trouves l'argent pour acheter tes premiers stocks? Comment est-ce que tu fais ton site? Voilà, raconte-nous tout.
Ouais. Ok, alors sur la partie, donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait au tout départ? Moi, j'étais très dans la théorie et tout, et je continue à l'être sans doute un petit peu trop, mais quand même, avec mon associé en discutant, on se rend compte que bon, il faut aller trouver un fournisseur, quoi. Et du coup, c'est moi qui étais chargé de ça, et je cherche vraiment sur Google, je cherche sur Europage, un site dont je me souviens, je sais pas s'il existe encore, mais c'est un site qui référence tous les fournisseurs en Europe, mais sur n'importe quel business. Donc derrière, il faut taper textile et tout, c'est très très large. Donc c'est vraiment, tu tapes maille ou pull Europe et t'as 150 ou peut-être même 4000 pages, donc c'est énormément de boulot. Et derrière, faut les contacter, sachant que t'es tout petit, t'as pas le jargon, tu connais rien, t'as pas d'argent, donc t'en as 10% qui te répondent. Et à la fin, au final, après quelques mois, on finit par trouver un gars sur Google. J'étais en mode, j'avais fait tout en Europage, j'avais rien donné, et j'avais réalisé que en Italie, je commençais à en discuter un peu avec des gens en Italie, ils étaient assez bons sur la confection de la maille, donc et j'avais réalisé que fabricant de maille en italien, c'est Maglificio, et donc j'avais tapé Maglificio dans Google et j'avais contacté les 15, 20, 30 premiers, et en fait c'est le premier de la liste, Maglificio Venezia, qui s'est trouvé être le bon, et voilà, et on a démarré avec
ça, c'est sur la... Et est-ce que tu estimes que l'échec de pas avoir réussi à convaincre des fournisseurs avant, c'était dû en partie à toi, ou c'était juste que démarrer un business, c'est juste très dur? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ton expérience, un peu plus de bagou, etc., t'aurais pu mieux les convaincre?
Je pense pas que j'aurais pu beaucoup, beaucoup mieux les convaincre. Je pense qu'en revanche, j'aurais pu beaucoup mieux organiser mon sourcing d'usine. C'est-à-dire que, et je le vois aujourd'hui, parce que on fait pas mal de recrutement. Le recrutement, quand tu fais une chasse pour un poste, il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à sourcer un maximum, et ensuite tu commences à contacter et à commencer ton funnel entre guillemets. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait un contact à droite à gauche, on le contactait, on commençait à bosser avec lui. Ah bah non, au bout de 2 mois, ça marche pas, donc je repars, j'en cherche un nouveau. Et en fait, c'est pas comme ça. Moi, je pense qu'au début, tu dis, il faut un bon fabricant de maille. Tu rencontres plein de gens, tu trouves les 3-4 sites sur lesquels tu vas pouvoir trouver des noms de fabricants, tu vas sur Google, etc. Tu te fais un Excel où tu te retrouves avec 150 noms, 150 emails. Là, tu taffes bien ton email, tu fais de la B-test pour voir sur les 10 premiers si ton email est converti, entre guillemets, ou pas. Et t'avances comme ça. Et je pense que c'est ça que j'aurais pu améliorer pour gagner du temps.
Du coup, là, t'as ce fournisseur. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas le voir en Italie?
Oui, alors au début, lui, par chance, quand je le contacte, il me répond direct en me disant, bah ça tombe bien, je viens demain à Paris. Donc il arrive le lendemain à Paris et il nous montre des produits qu'il fait, et on voit qu'il bosse avec des jeunes marques parisiennes qu'on connaissait, donc ça nous rassure. Et en même temps, il bosse avec Lanvin, donc ça nous rassure. Et lui, tout de suite, il nous dit, ouais, franchement, moi je suis chaud, ça me va. On lui avait dit, on va faire une commande d'environ 1000 pulls, ce qui était pas mal. Et voilà, on le sent bien, on se dit, ok, go. Et là, on a à nouveau une petite phase où c'est un peu lent, le mec répond pas trop, etc. Et je me souviens très bien que j'en parle à mes parents, ils me disent, mais franchement, vas-y, quoi. Et donc, on se paye un billet avec mon associé, et on allait lui rendre visite. Et à partir du moment où on allait le voir, ça a accéléré les choses.
Ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu contre-intuitif, je trouve, aujourd'hui, dans la société où tout peut se faire à distance. Ouais. Mais c'est le cas de beaucoup de gens que je connais qui bossent dans la mode. Aller voir ton fournisseur, ça change tout, en fait. Qu'il soit en Espagne, au Portugal, en Italie, il faut aller le voir, ça change tout.
Ça change tout, ça accélère derrière, enfin ça renforce la confiance de l'un et de l'autre, ça permet de mieux comprendre l'un et l'autre, parce que toi, quand t'as jamais vu une usine et que tu vas pour la première fois, tu comprends un peu comment c'est organisé, etc. Donc ça a plein de vertus,
Donc là, t'as ce fournisseur, tu lui fais cette commande 2000, ouais. C'est toi qui l'as dessiné, ouais. Comment t'as dessiné, comment tu l'as dessiné?
C'était la sœur de mon associé, mais c'était assez simple. On voulait faire un bon pull assez basique avec un petit élément différenciant qui était à l'époque un petit twist de couleur. En gros, on avait le col du cardigan qui était dans une deuxième couleur. Enfin, c'était quelque chose d'assez simple. Donc, tout allait résider dans la qualité de la matière, la qualité de la coupe et le bon choix des couleurs.
Donc, c'est un pull pour homme.
Ouais.
Est-ce que du coup t'as fait pas mal d'études, pourquoi dans ton étude de marché tu t'es dit je vais aller chez les hommes, il me semble que c'est un marché plus petit que les femmes, peut-être moins adressé,
ouais.
Pourquoi?
Non, là pour le coup c'est l'envie de faire un truc dont je serais client, quoi.
Ok. Tu penses que c'est un conseil à donner, ça, d'essayer de faire quelque chose qui te plaît à toi, que à toi?
Ouais, moi, je pense que ça aide, ouais. Beaucoup. Je pense que ça aide beaucoup d'être le meilleur client de sa marque. En tout cas, peut-être ça dépend des personnalités. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup, enfin que ça m'a beaucoup aidé. Et au final, effectivement, ma première marque, je me suis retrouvé pas client de la marque parce que j'étais trop cher. Et le point de départ de ma deuxième marque, c'est de me dire, en fait, j'en ai marre, je veux être le client numéro un, je veux que mes cinq potes qui aiment bien les fringues autour de moi soient les clients numéro un. Et du coup, il faut que je fasse tout pour que l'offre corresponde à mes potes et moi.
Donc, si c'est 7, t'achètes 1000 pulls, tu dépenses quoi, 25 000 euros, quelque chose comme ça?
À peu près.
Comment tu les trouves?
On avait emprunté de l'argent de mémoire sur des emprunts étudiants parce qu'on était encore étudiant, donc on pouvait un peu d'argent.
Pour dire que c'était pour payer tes études et au final c'était pour la boîte.
Ouais.
Très bien. tu fais ça, maintenant on va dire que t'as un mal de tête, c'est de les vendre. T'as résolu le premier mal de tête, c'est de les trouver, maintenant il faut les vendre.
Exactement.
Comment tu fais? Quand est-ce que tu commences à penser à comment tu vas les vendre? À quel moment de...
Ouais, on y pense. En fait, dès le départ, on sait qu'on va essayer de trouver des revendeurs. On sait qu'on va organiser des ventes dans des lieux au début pour que notre réseau puisse les acheter. Et on sait qu'on va ouvrir un site internet dès le jour 1.
D'accord. Raconte-nous comment tu l'ouvres, ce site internet. Tu utilises quoi?
Bah, ce site, on trouve c'était un pote de mon petit frère qui était en école d'ingénieur et qui met en relation avec un de ses copains qui nous fait le site. C'était un PrestaShop, donc il n'y avait pas un boulot monstrueux. À l'époque, on le paye, je crois qu'on lui file même pas de cash, on le paye en pull au début, puis finalement on le paye en cash un peu après. On a la grande sœur d'un copain qui nous fait le graphisme du site. Pareil, alors elle, pour le coup, je lui ai fait un peu de cash, mais c'était, je pense, pas grand chose parce qu'on avait des tout petits budgets. Et c'est mon associé qui était product owner, même si on ne connaissait pas ce terme-là, mais c'est lui qui gérait le tout ça. Et puis
de toute façon, c'était un site avec un seul produit, donc en termes de complexité.
Ouais, c'était deux. Alors c'était, il y avait deux formes de pulls et 7 couleurs de chacun.
Donc 14 produits.
Ouais. Exactement.
Ok, donc ouais, pas très compliqué à organiser. donc là, tu crées ce site, mais bon, créer un site, c'est pas ça qui te permet de les vendre.
Non.
Contrairement à beaucoup d'idées reçues, ça suffit pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'as ces 1000 pulls là, tu les stockes. Tu les stockes où, chez toi?
Alors, ces 1000 pulls, on les stocke. On les stocke. Alors, en fait, entre le moment où on commence à bosser sur le projet et le moment où vraiment on commence à le vendre, il se passe 9 mois. Et au bout du 6e mois, le père de mon associé qui avait la galerie dont on avait le sous-local nous dit, on lui pose la question, on dit est-ce qu'on pourrait faire l'événement de lancement, donc la première vente justement avec des copains, le réseau et tout, dans la galerie, parce que lui, en fait, il l'ouvrait un peu à mi-temps, il était en train de prendre sa retraite. Donc, du coup, il nous dit bah ouais, évidemment. Et en fait, du coup, la galerie, elle avait une cave également, donc on stocke tout dans la cave. Et on lance la marque officiellement par un week-end entier où on fait 2 soirées. Et où la journée, les gens peuvent venir acheter les pulls. Quoi.
Ok. Et alors, le résultat de ça?
Le résultat est pas mal. On vend, je crois, 300-400 pulls, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal. Parce qu'on avait quand même pas trop mal teasé le lancement de la marque. On avait créé la page Facebook peut-être 3-4 mois avant. On avait fait un peu de teasing et tout. C'était sympa. Et puis aussi parce qu'on avait pas mal de copains. On sortait d'école de commerce. Que du coup, on avait une capacité à ramener un peu de monde à deux dans un événement de lancement. Que l'endroit était joli, que les pulls étaient plutôt bien, pas exceptionnels, mais plutôt bien, que les photos étaient belles et que les copains font plaisir, tu vois. Et ça, par contre, c'est un truc qu'on ressent assez vite, c'est que globalement, Il y a pas grand monde qui nous dit ouais, putain vraiment ils tabassent tes pulls, ils sont trop beaux, mais les gens les achètent un peu pour être sympa quoi, tu vois.
OK, et t'avais l'impression de leur demander une faveur, t'avais l'impression de leur demander, est-ce que t'as été un peu pushy pour qu'ils les achètent au début, pour qu'ils partagent sur leurs réseaux sociaux, etc.?
Je pense que on a été pushy sans l'être, c'est-à-dire qu'on juste on a communiqué de manière relativement intensive. On faisait, tu vois, on devait poster tout le temps sur Facebook, on shootait des emails, enfin à l'époque d'ailleurs on shootait pas beaucoup d'emails. Mais il y avait aussi, tu vois, il y avait le petit frère d'un pote qui était venu faire un petit concert et tout, donc il y avait en fait c'était plus un événement, et ça pour le coup moi j'en ai déjà fait, mon associé aussi, donc c'était un événement plutôt bien organisé où il y avait pas mal de monde, et donc du coup les choses étaient plutôt bien présentées, donc les gens achetaient.
Je trouve que c'est important de réussir à mobiliser sa communauté, surtout quand tu montes ta première boîte. Moi je sais que quand j'avais monté ma première boîte, j'étais trop timide, je voulais pas trop embêter mes copains sur Facebook, etc. Et un jour j'ai une copine qui me l'a reproché, qui m'a dit quoi, mais tu fais ça, mais moi je connaissais un mec qui aurait été client et j'étais même pas au courant, c'est pas normal, tu vois.
Et ça c'est
une erreur, je trouve, assez classique, en tout cas que moi j'ai faite. Et quand elle me l'a dit, j'étais là, mais je me suis dit, mais je suis un débile quoi, je me fais engueuler par mes potes parce que ils sont même pas au courant de ce que je fais, je suis un fou furieux. C'est tellement dur de réussir. Et ça, c'est quelque chose.
Je suis d'accord. Et c'est vrai que je pense que nous aussi, on n'était pas suffisamment pushy. Je pense qu'on l'était un peu via les réseaux sociaux et tout. Mais tu vois, j'étais pas le mec pushy, genre à un dîner avec des gens, des potes de potes et tout. J'étais pas le gars qui disait ouais, putain, les gars, je lance une marque, venez à la soirée. Enfin, okay. Alors que j'aurais peut-être pu le faire.
Ok. Donc là, tu as fait ça. Donc c'est le premier événement. Ça se passe bien. Tu en vends combien des pulls? Tous?
Ouais, je te dis 300-400,
pardon.
Le premier événement, l'événement se passe plutôt.
Il t'en reste 600. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux recommander déjà ou t'attends? Tu te dis pas après les.
Là, à ce moment-là, on avait tout donné dans l'organisation de ce lancement, etc. Donc, rien donné sur comment générer du trafic sur le site, ni rien fait sur trouver des revendeurs. Enfin, à part avoir une liste de revendeurs, mais on n'avait pas vraiment de produits à montrer, donc on n'avait pas vraiment démarché. Donc là, commence le démarchage. Au début, donc c'est moi qui suis chargé de ça. Moi, au début, j'ai un peu une appréhension, je suis un peu timide, j'ose pas trop aller dans les boutiques, donc je mets un petit peu de temps, je mets quelques semaines à me roder. En fait, assez vite, je fais une première tournée commerciale. Ouais. Donc là, je pars avec ma Twingo, mes pulls, et je fais le tour de France avec un gars que j'avais rencontré à l'époque qui lançait un concept de mojito glacé qu'il vendait aux boîtes de nuit. Donc lui, il essayait de vendre ça la nuit aux boîtes, et moi, la journée, j'essayais de vendre mes pulls. C'était assez drôle.
Vous étiez à deux, vous dormez dans la même chambre d'hôtel, vous partagez les frais, quoi.
On dormait, on squattait chez des potes d'accord. De potes, la famille et tout. On a réussi, tu vois, on avait vraiment pas de cash, donc on était quasiment jamais à l'hôtel.
Ok.
Et voilà, et on galère tous les deux. Hein.
Là, tu dois avoir une petite histoire croustillante à nous donner. Alors, je sais pas, raconte-nous quelqu'un que t'es allé voir, un rendez-vous qui s'est hyper mal passé, ou une grosse connerie que t'as dit, ou que t'as faite. Tu dois en avoir plein.
Ah non, je me souviens d'un truc. Alors, je me souviens d'un truc, c'est que. Alors, c'est un truc improbable, c'est que on arrive à. Donc, mon Tour de France commence, je pense qu'on commence par. On doit commencer par la côte ouest, un truc comme ça. Et puis
la côte ouest de la France, hein. pour pas qu'on s'imagine avec des lowriders à Los Angeles.
J'étais dans ma Twingo à Nantes. mais voilà, non, on commence le truc, je signe rien, vraiment aucune touche et tout, et j'arrive à Nice, donc la ville où j'étudiais, et là je signe deux bouclards à Nice, donc vraiment improbable, tu vois.
C'était quoi, c'était des revendeurs classiques, des mecs multimarques
Ouais, c'était des revendeurs multimarques, un peu franchement pas ouf et tout, mais il y en a un vraiment en fait j'avais jamais en fait.
T'avais une liste de trucs ou d'entreprises à aller voir, ou juste t'allais dans les rues marchandes et tu voyais, t'avais la liste, ok.
Non, j'avais une liste. Okay. J'avais une liste qui était faite. Et j'arrive, et en fait, le truc, c'est que d'une certaine manière, je pense que j'y croyais tellement pas que j'avais même pas de bon de commande. Donc le mec, je lui ouvre le truc, il regarde, il dit ouais, ok, ça marche, je passe une commande. Et j'étais tellement surpris que j'avais pas de
bon. Oh là là.
Et là, le gars m'a tellement pris pour un naze, derrière, il m'a dit ouais, mais t'as pas de bon de commande. Et bah, ok, on le note sur ton ordi, t'as pas d'ordi. Note sur ton téléphone, j'avais pas de batterie. Là, il me dit ok, là, mec, qu'est-ce que tu me fais et tout. Et donc, il m'envoie chez Indy, là-bas, tu peux aller printer un bon de commande. Je reviens, le bon de commande, il était froissé avec des fautes d'orthographe, pas assez de place sur les cases et tout. Genre, vraiment, le gars me trouve tellement nul qu'il est à deux doigts d'annuler la commande. Quoi. Et là, il me dit ok, il va falloir que je me prépare un peu mieux. Quoi.
Wow. Voilà. Et après, t'as fait quoi? T'as acheté une batterie?
Bah, après,
deuxième batterie.
Du coup, je suis allé me faire un petit Excel un peu clean. Je l'ai imprimé 40 pages et plus personne n'a jamais refait de commande, donc ça
vient de me choquer. Donc là, tu fais ce Tour de France qui se solde sur un échec, du coup, T'as signé deux petits boucles à Rani,
alors, un peu plus. Échec, oui, échec, parce que c'est pas genre la folie. Je reviens pas, je dis pas, ceci, mec, c'est la folie, j'ai plus de pull, j'ai tout vendu, j'ai quasiment rien vendu. Je dois ouvrir quand même 3 ou 4 points de vente, dont la moitié en dépôt vente. C'est-à-dire que les mecs, ils me disent, OK, si tu veux, laisse des pulls et si je les vends, je te les paye. Si je les vends pas, tu les récupères. Et voilà, et on finit la saison avec peut-être, en fait, on avait lancé du coup la marque sur une collection printemps-été au final. Donc, un peu bizarre pour une marque de pulls, mais le timing avait fait ça. Et donc, on finit la saison printemps-été 2012, qui est la première, avec peut-être 4-5 points de vente.
Okay.
Donc, c'est vraiment pas la folie. C'est pas zéro, mais c'est vraiment pas la folie. Donc là-dessus, on arrive à vendre peut-être 150 ou 200 pulls via des revendeurs dans la saison. Sur le site, je pense que dans la saison, on en vend 10, sans déconner. On vend rien, on n'a aucun trafic.
C'est un problème de trafic, c'est ça ? Plus que de conversion ?
Ouais, et de conversion. Okay. Enfin, rien n'allait, donc on vend vraiment que dalle. Honnêtement, je ne sais même pas si on en vend 10 dans la saison.
D'accord.
Si, peut-être avec les soldes et tout à la fin. Et donc à la fin de la saison, il nous reste, tu vois, il doit nous rester 400-500 pulls, un truc comme ça. Et là, on fait des opérations. Je trouve quand même des sites. Je trouve deux sites en Allemagne. Je crois qu'ils font un peu du déstockage, mais pas trop bourrin. Donc, on arrivait quand même à garder de la marge. On arrive à en écouler peut-être 200-300 comme ça. Et à la fin, il nous reste 200-300 pulls. Vraiment, on sait pas quoi en faire. On a plus de cash pour financer la prochaine collection. Et on est obligé, en octobre, de les vendre à un déstockeur qui les rachète pour 5 € pièce, sachant qu'ils nous avaient coûté plutôt 20 € pièce.
Ok.
Et on a quand même sauvé les meubles. On a suffisamment de cash dans la boîte pour payer la deuxième collection.
D'accord. Donc là, t'as récupéré ta mise et tu réinvestis tout dans la deuxième collection.
Ouais, exactement.
Alors cette deuxième collection, qu'est-ce que ça donne? T'en achètes combien? T'en achètes 1000 une nouvelle fois ou...
on en achète un peu moins là.
Hein, combien?
On en achète un peu moins, mais cela dit, pas beaucoup moins, parce que en fait, la commande, on l'avait passée genre quasiment au moment où on lançait la marque. Donc on était encore un peu dans cet optimisme naïf. D'accord. De dire 1000, c'est pas beaucoup. Donc je crois que voilà, on avait eu quand même le temps d'en annuler un peu, mais on doit avoir une commande à peu près similaire. Et là, c'est une collection hiver, donc c'est un peu plus cohérent. On en vend plus, mais c'est pas beaucoup plus ouf. Je refais une tournée commerciale, je re-signe 3-4 points de vente.
Et tu les vends tu les vends toujours avec ce gros événement au début où tu arrives à en écouler la majorité, puis ouais, le reste.
Exactement. Et ce qui nous sauve, en fait, c'est que le lieu, la galerie où on fait le lancement, au final, le père de mon associé nous dit « j'arrête l'activité ». Et là, on négocie avec lui de payer le loyer à sa place. Il avait un loyer ridicule. Donc, on paye le loyer à sa place et il nous laisse l'endroit qui est à la fois nos bureaux et une boutique. Et donc là, en fait, on se retrouve au bout de 4 mois d'activité à avoir une boutique permanente et on a très, très peu de choses à vendre. Mais on a une boutique permanente et donc ça nous permet quand même d'écouler du stock. Tous les jours, on vend entre 5 et 10 pulls, donc ça, c'est pas mal. Et là, pour le coup, on est dans une rue pas du tout passante, mais ça marche quand même pas trop mal. Et aussi, on a quelques copains qui avaient des marques de fringues, de pompes et tout, et on leur dit, venez, on fait un peu de dépôt-vente dans la boutique, donc eux nous laissent un peu de cam. Et du coup, on paye que ce qu'on vend. Donc là-dessus, on arrive à faire entrer un peu plus de cash de manière régulière.
Ça, c'est quelque chose d'important, je crois, quand t'as un magasin physique, de pas avoir que 2 produits. On dit souvent qu'il faut avoir une gamme un peu plus large.
Franchement, notre boutique, elle était lunaire. Je pense que les gens, ils hallucinaient. Au début, il y avait encore moitié galerie d'art. Donc, tu rentrais, c'était à moitié une galerie d'antiquité. C'était même pas galerie d'art, genre moderne, cohérent. C'était galerie d'antiquité. Et la moitié, on vendait des pulls.
C'était concept. Un vrai concept. Un
vrai concept. Mais ouais, clairement, très, très vite, on se dit, il faut qu'on vende plus que des pulls et l'espace est assez grand. Et ça, ça fonctionne pas trop mal et ça nous sauve. Hein. Je pense que si on n'avait pas eu ça, on aurait fermé la marque très très vite.
Et donc là, cette deuxième saison se passe. T'arrives à bien écouler ou c'est quoi le bilan à la fin de cette saison?
C'est mieux, mais c'est toujours pas ouf. Ça continue un peu sur le même trend, c'est-à-dire que ça survit.
Tu sens que ça prend pas quoi.
Non. Ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des premières tensions avec ton associé? Parce qu'on parle souvent, enfin, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'on dit, ouais, la première cause d'échec des startups, c'est la mauvaise entente entre les associés. Mais en réalité, la mauvaise entente avec les associés, c'est dû à la mauvaise réussite business. Donc en fait, le premier échec des startups, c'est pas l'équipe, c'est le business avant tout. Quand ça marche, t'es content.
ouais, je pense qu'il y a du vrai dans les deux. Mais ouais, clairement, nous, les tensions, elles interviennent du coup très très vite parce que c'est quand même assez décevant, ça galère un peu. Et... Donc ouais, les tensions, elles arrivent vite. Ouais.
Et c'est quoi, comment ça se traduit? Est-ce que c'est chacun essaye un peu de reprendre ce que fait l'autre et de le faire à sa place en lui mettant sa patte et en lui expliquant un peu la vie?
Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de genre, tu vois, mon associé, il devait se dire, ah, putain, il démarche pas assez, et moi, je devais me dire, putain, il gère pas assez les comptes, et en fait, on est en galère de cash, et on s'en rend même pas compte, enfin, tu vois. Donc, tu commences un peu à te dire que l'autre fait pas forcément très bien son taf, et du coup, enfin, voilà, ouais, ça commence un peu, quoi. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Bah, à ce moment-là, en fait, au final, les choses s'améliorent quand même d'un point de vue business. On avance, c'est pas la folie, mais on avance, on a de la croissance. Mais c'est de la croissance d'une base qui est très très basse. Tu vois, je me souviens, les premiers 6 mois d'activité, on fait 90 000 euros de chiffre d'affaires sur les premiers 6 mois. La deuxième année, on doit faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal, mais en fait, on avait quand même pas mal de frais à côté, et clairement, c'est pas rentable, on se paye pas, et c'est pas la folie non plus, quoi.
Et c'est à ce moment-là que tu décides de lancer une boutique dans le Marais.
Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, au bout de 3 ans et demi, les choses avancent, on monte à peut-être 300 000-400 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on sent qu'on commence à signer des boutiques un peu plus cool,
T'arrives
la
à te
collection
payer
est
correctement
sortie.
à ce moment-là ou pas?
Non, là, je me paye toujours
Donc
pas.
ça fait
Donc
3 ans que
là,
tu
on
te
a fait
payes
une
pas.
deuxième erreur,
Ok.
c'est que pendant on a accepté de ne pas se payer pendant 3 ans.
3 ans. Et là, en plus, t'as tes copains qui commencent à bien gagner leur vie. Tu peux plus aller en vacances avec eux. Les week-ends, c'est compliqué. J'imagine, non? T'as tous ces problèmes-là?
Ouais. Alors le truc, c'est que les copains, ils commencent à gagner leur vie, mais ça reste quand même jeune, donc c'était pas comme, enfin, tu vois, ça partait pas tous les week-ends à Ibiza non plus, quoi. Je veux dire, quand ça allait à la campagne, bah j'allais à la campagne, quoi.
Ok, tu ressens pas encore cette douleur
Non.
sociale de l'entrepreneur trentenaire.
Non,
T'as pas
je l'ai
encore
jamais vraiment
marché.
ressenti, parce que par ailleurs, même si le business est dur, moi je sais que je suis à ma place et que je suis en train de faire le truc que je dois faire, quoi.
Ok. T'entends pas des petites voix s'élever de mais William, mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux pas arrêter ces conneries et prendre un vrai job? Ou mais William,
Non,
quand est-ce que tu vas faire une boîte qui marche?
en revanche, ouais, j'entends un peu les oreilles qui sifflent, les gens qui disent, qu'est-ce qu'il fout, c'est pas ouf ce qu'il fait et tout ça, ouais, un peu,
Ok.
ouais.
Ça, c'est dur à vivre ou ça va?
Ouais, c'est un peu dur à vivre. En fait, ce qui est dur à vivre, c'est d'être dans un truc où tu te dis, putain, c'est pas la folie, ça marche pas très bien, et que toi-même, du coup, t'es pas trop convaincu par ce que tu fais. Et du coup, bah, tu vois, tu te retrouves effectivement quand on te demande ce que tu fais, tu te dis que t'as une marque, mais t'es pas en train de la survendre, et en méga confiance, en train de te dire, le mec à qui je parle, c'est un potentiel client. T'es plutôt en train de dire, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose.
Ok,
On parle
ne me juge pas.
de.
Ok, donc là, t'arrives à quand même lever 500 000 euros pour cette boutique. C'est pas anodin. Tu les sors d'où les 500 000?
C'est Business Angels, donc c'est des copains. Donc effectivement, là, c'est un moment où vraiment je prends confiance, parce que j'arrive à convaincre des gens qui sont intelligents et qui font pas ça juste pour me soutenir, hein. Ils ont pas envie de perdre de l'argent. Donc là, je me dis, ok, en fait, il y a quand même des gens qui croient en moi et en nous. Et du coup, c'est des copains, c'est des copains de copains, c'est un petit peu de famille, et c'est des amis des parents, c'est quelques mecs du business.
T'as mis combien de temps à les lever ces 500 000?
6 mois.
Ok, 6 mois à faire un peu la tournée des popotes
Ouais.
avec un beau PowerPoint, j'imagine,
Ouais.
qui met en avant les chiffres qui montent.
Ouais, exactement.
Ok, et le rationnel derrière ça, c'était quoi? C'est de dire, il y a une place à prendre sur le marché, sur le pull en maille, ou enfin, c'était quoi ton argument de
Nous,
choc?
on va faire la référence, on va faire le Figaret de la maille, quoi. Donc Figaret, c'est les chemises. Chemise, spécialiste dans la chemise, donc c'est de faire une marque de maille avec du cachemire, du coton, de la laine, d'en faire une référence et de déployer une stratégie retail, puisqu'on avait une première boutique dans le 16e qui tournait bien alors qu'elle était super mal placée. Et on se dit, on va ouvrir une boutique dans le Marais qui va bien marcher, et derrière, on pourra aller voir les banques en disant, voilà, on a deux boutiques qui tournent, financez-nous une expansion. Et donc on disait qu'on allait ouvrir une boutique
C'était
par
quoi ton panier moyen pour le pull? Le pull, il coûtait combien?
150, 200 euros.
D'accord. Ouais, donc c'est des beaux pulls quand même.
Ouais, c'était des beaux pulls, c'était tout le problème, hein, c'est que c'était des beaux pulls fabriqués en Italie, de très bonne
Ok.
qualité, vendus dans un système classique, c'est-à-dire avec des revendeurs et tout qui t'imposent de faire des marges assez élevées. Donc mes pulls, les tout basiques, ils étaient à 150 balles, et les beaux pulls, ils commençaient à 200, et les vraiment beaux pulls, ils étaient à 300 balles, quoi. Donc c'était
Ok.
quelque chose.
Donc là, tu lèves ces 500 000 balles. Tu lances ta boutique dans le Marais et patatras. Je crois qu'au début, ça s'est pas très bien passé.
Ouais, en fait, dès le début, ça se passe très mal.
Ouais.
Assez rapidement, on fait un samedi à zéro. Donc là, clairement, j'ai envie de me pendre, hein. C'est la catastrophe, tu vois, faire un samedi à zéro. Je l'avais jamais fait dans le 16e. Je suis dans le Marais, rue passante. Il y a un trafic de ouf devant la boutique, et on fait
Et les
zéro.
gens, ils
C'est
rentrent?
Les gens, ils rentrent vite fait, ouais, un peu. Il y a un peu de trafic, mais la conversion est pas bonne.
Et c'est toi ce jour-là qui tiens la boutique en plus. C'est même pas une journée où tu début, peux te dire ils ont fait n'importe quoi.
Non, au tout début, oui, au tout début, oui. Mais rapidement, on se dit bah non, il faut un vendeur. Donc au bout de 2 semaines, on trouve un vendeur. Le vendeur, ça le fait pas, donc il reste pas longtemps. Et après, moi, je retourne à la boutique pour parce que c'était vraiment chaud et je me dis ok, il faut que ça soit un ou deux qui aillent, faut qu'on sauve les meubles et j'y vais. Et là, en fait, c'est particulier parce que c'est une période où je suis dans la boutique seul et mon équipe qui était pas très grosse, mais il y avait un styliste, quelqu'un qui faisait le web marketing et mon associé, et il devait y avoir un stagiaire ou deux. Ils étaient eux dans le 16e où il y avait la boutique bureau. Et là, du coup, j'ai le temps de prendre du recul, de me poser les bonnes questions et de me rendre compte qu'en fait, on va dans le mur, quoi.
Ok. Et quand tu te dis ça, on va dans le mur, tu fais quoi?
Bah là, je commence à faire quoi? En fait, à ce moment-là, je reprends vraiment un gros intérêt pour les startups, tu vois, l'écosystème startup que je suivais beaucoup par les blogs, des trucs et tout online. Et au moment de les premières années du lancement, je suis la tête dans le guidon, je bosse et j'arrête de faire ça. Et là, je me dis ok, vas-y, je prends un peu de recul, je vais voir. Et là, à ce moment-là, c'est The Family qui faisait énormément de contenu, je bouffe tout le contenu et vraiment ça m'ouvre les yeux, quoi. Je me dis en fait je suis en train de pas du tout faire une start-up, je suis en train de faire un vieux truc à l'ancienne et je sais pas du tout ce que j'ai envie et de toute façon ça marche pas. Donc en fait, il faut qu'on reparte de zéro et qu'on crée autre chose.
OK. Ton associé, il en dit quoi?
Mon associé, il est moyen chaud, je le sens tout de suite et du coup, très vite, je lui dis, écoute, je pense que le plus sain, c'est que tu sortes, que je reste avec 6 et 7, les employés, et que avec les derniers euros qui nous restent et les derniers mois de cash qui nous restent, j'essaye de sauver le bazar en créant autre chose. Mais
Donc, tu lui rachètes ses parts?
Ouais, je lui rachète ses parts et on trouve un deal un peu particulier avec son père qui avait un peu investi d'argent, qui fait un peu tampon dans l'investissement parce que moi j'avais pas le cash à l'époque et en plus la boîte était en grosse difficulté, donc du coup moi je me trouve un truc où je suis à risque sans être à risque et lui en même temps il arrive à prendre un billet, donc il sort voilà, pas, j'allais dire content, il peut pas être content, il sort mais en même temps il vivait plus très bien le truc.
Et lui il allait reprendre un job après ou il a remonté un truc?
Et lui, il a remonté un truc derrière. Il s'est associé avec un gars qui avait monté un truc.
Et ça a bien marché pour lui après?
Ouais, je crois que ça marche pas mal. On est toujours en contact, on s'est quitté en bon terme. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de détails là-dessus, mais ouais, en tout cas, il s'est réassocié dans un truc et ça s'est bien fini entre nous.
Okay. C'était ça. Ouais, c'est important. Donc là, t'arrives avec cet énorme pivot. Où tu repasses tout seul dans la boîte. Combien vous êtes d'employés dans la boîte?
Là, à ce moment-là, donc mon associé sort et donc moi je suis dedans, je pense que je suis le seul CDI. Non, il y a le styliste qui est en CDI à ce moment-là. Et il y a Rodolphe qui est en web marketing et qui a démarré 6 mois avant sur 6 et 7 et qui est en freelance lui à ce moment-là.
Et toi, tu te payes
ou? Et il y a John aussi qui est en stage alterné.
D'accord. Donc, et toi, tu te payes toujours pas?
Et si, moi je me paye depuis un peu avant la levée de fonds, voilà, je me paye pas beaucoup, mais si, je me paye.
Pas beaucoup, c'est autour de 1500, 2000?
Je me paye 2000 euros par mois.
Ouais, 2000 euros par mois. Ok, donc un petit salaire, mais qui te permet de subvenir à tes besoins. Donc là, t'es là, quel âge t'as?
Là, j'ai 20. Ouais, je suis pas tout jeune, hein. J'ai 28 à l'époque, 29.
28, 29, auréolé de cette première expérience coussi coussa, on va dire. Ouais. Et comment t'as l'idée d'Asphalt?
Alors l'idée d'Asphalt,
le nom,
l'idée d'Asphalt,
et le nom aussi.
Ouais, ça on va en parler. L'idée de la marque, c'est justement ce ras-le-bol de me dire en fait, je suis en train de pas du tout faire un truc dont je suis client. Je suis pas du tout en train de créer quelque chose qui a de l'utilité sur le marché. Ça c'est un truc que j'ai identifié assez tôt dans mon envie d'entreprendre, c'est que j'avais pas du tout envie d'entreprendre pour faire du cash, être blindé et prêt à faire n'importe quel business. Moi, je voulais faire un business qui ait du sens, où je me dis que je vais servir à quelque chose, tu vois. C'est pour ça que Branson a toujours été pour moi une source d'inspiration, parce que Branson, il a toujours eu cette approche de dire, ok, je veux faire des business qui viennent sur des marchés où en fait le service est pas bon, les clients sont pris pour des vaches à lait, etc. Donc, et en fait, au final, ma première marque, je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Donc là, je me dis, ok, j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose de nouveau qui rend service. Et pour moi, le service, c'est en fait l'envie de faire un vêtement qui dure dans le temps. Parce que j'entends à ce moment-là beaucoup de gens qui parlent de qualité, etc. Et nous-mêmes, les premiers sur 6S, on parlait de qualité. Mais en fait, la qualité, ça ne veut pas forcément dire la durabilité du vêtement. Et moi, en fait, je suis attaché à ça. Je me rends compte que ce qui me plaît, c'est de garder un vêtement longtemps, d'avoir un vêtement solide. Et pour moi, la qualité, c'est ça. C'est pas genre un fil de soie magnifique, mais qui craque au premier truc. C'est un truc costaud qui tient dans le temps. Et je me dis, je veux faire un truc costaud. C'est ça la qualité pour moi. Et un truc pas cher. Et du coup, je me dis qu'il va falloir repenser complètement le modèle économique pour y arriver. Et en fait, l'idée de la précommande, elle est venue par deux choses. D'une part, parce qu'il y avait une marque qui le faisait un peu aux States, mais aussi parce que nous, on l'avait testé en fait sans vraiment s'en rendre compte sur 6 et 7, parce qu'on avait nos collections qui étaient prêtes 6 mois à l'avance, puisqu'on avait des revendeurs. Et du coup, ces collections, on les à la fin, on les présentait via un PDF à des copains à qui on disait, si vous voulez, vous pouvez aller acheter, vous pouvez acheter au prix grossiste maintenant, vous serez livré dans 6 mois. Et en fait, ça avait cartonné. Et du coup, je me dis, putain, mais c'est ouf, les gens sont prêts à attendre 6 mois si il y a une bonne qualité au bon prix, tu vois.
Et là, ton risque, en fait, c'est de te dire... ce qui a marché pour mes copains, ça va marcher pour quelqu'un de base, quoi, qui me connaît pas forcément.
Ouais, je sais que, en fait, du coup, au moment où je commence à réfléchir à Asphalt, je suis encore sur 6 et 7, et du coup, j'ai l'occasion de faire un test un peu plus à grande échelle sur cette histoire de catalogue 6 mois à l'avance, où je fais un groupe Facebook, où là, pour le coup, je dis à genre 20 copains d'inviter 20 copains, et on se retrouve à 400 sur le groupe, et du coup, j'ai une communication un peu plus large, et à nouveau, ça marche très bien.
Et là, tu fais une précommande sur la marque 6 et 7 ?
Exactement.
D'accord. Sur un produit.
Sur le catalogue de l'hiver d'après, alors qu'on est en février et je vends un truc qui sera livré en septembre d'après. Tu vois.
Et ça marche.
Et ça marche, ouais, franchement, ça marche bien. Ouais.
Donc c'est ça qui ça a été un peu ta proof of concept pour dire, ouais. Ok, là je tiens quelque chose.
Exactement.
Et donc là tu te mets all-in dessus direct, comment ça se passe ?
Là, je me mets le minimum syndical sur 6 et 7. Je me dis, OK, il faut que ça tourne. Je cherche pas de croissance. Je veux stabiliser parce que c'est ce qui paye l'équipe, etc. Et donc, je suis à 30% sur 6 et 7, 70% sur Asphalt.
D'accord. Et autre question. Avant de lancer Asphalt, comment est-ce que tu décides de l'univers d'Asphalt, qui est assez spécial, qui est l'univers qui a fait le succès d'Asphalt, qui fait qu'on a envie de vous faire confiance, vous êtes tellement sûr de vous dans votre communication. Comment est-ce que tu as réfléchi ça ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ça ? Parce que ça te ressemblait ? Raconte-nous ça.
Ouais, alors effectivement, c'est un truc très important. Donc on se dit, OK, on va être 100% online, donc cette fois, on peut plus se permettre d'être pas bon dans la génération de contenu, etc. Il faut que l'histoire que raconte la marque soit cool, intéressante à lire et que les gens aient envie de nous suivre. Et en fait, on se dit aussi, on est un peu all-in dans le sens où, genre, si ça marche... ça sauve la boîte, si ça marche pas, c'est on prend le mur. Et en fait, ça nous stresse pas du tout, enfin ça me stresse pas du tout parce que les mecs avec qui je bosse à l'époque étaient pas associés, donc ils étaient pas dans ces situations de stress, mais ça me stresse pas, ça me libère, je me dis OK, vas-y, je vais faire un peu tout ce que j'ai voulu faire sur 6 et 7 et que j'ai jamais osé faire. C'est-à-dire que je vais parler avec un franc-parler de ouf. Je vais m'adresser vraiment à ce gars-là qui est un gars qui me ressemble et du coup je vais lui parler en mettant des mots en verlan s'il le faut, en disant on et non pas nous, en étant naturel, parce que moi c'est ce qui m'énervait dans la mode, c'était le côté avec des pincettes, on sait pas trop, tu vois, on fait pas confiance quoi. Moi je voulais faire un truc, une marque où t'as confiance, tu dis que le mec s'il te parle comme ça c'est que c'est un gars comme toi et que il t'explique ce qu'il fait pour faire un bon produit, il est transparent et voilà quoi. Et donc sur le ton de la marque, on bosse beaucoup pour trouver le bon équilibre entre un tronc qui soit justement libéré et pas trop familier non plus, même si on est quand même assez familier.
Mais c'est qui on du coup, si t'es tout seul?
Là, je travaille, donc là, à ce moment-là, je travaille toute la marque, je la construis avec Rodolphe et Antonin.
Donc ils sont eux aussi à 30% sur 6 et 7 et à 70% sur Atom.
Ouais, alors, ouais, exactement, grosso modo. Okay. Et voilà, et qui eux sont associés depuis. Allô?
Ouais, on a eu un problème de son. Vas-y, reprends.
Ouais, qui eux sont associés depuis et que j'associe assez vite juste après le lancement d'Asphalt.
Ok. Donc, raconte-nous alors maintenant cette première collection. Donc là, tu décides de lancer Asphalt. Tu décides de créer un premier produit. C'était quoi ce premier produit? Comment tu trouves le fournisseur? Dis-nous tout.
Ouais. Alors le premier produit c'est un pull, parce qu'en fait ça fait 4 ans qu'on en fait, donc on a une super expertise là-dessus, et en fait ça fait 4 ans qu'on fait des pulls de qualité, mais qu'en fait on résout pas le problème des gens. C'est-à-dire qu'on dit ouais c'est des pulls de très bonne qualité et tout, mais à aucun moment on écoute ce que c'est que la qualité pour un client. Et ce que c'est que la qualité pour un client, la réalité c'est que c'est assez proche de ce que nous on a en tête et ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la qualité pour un client c'est un truc qui tient dans le temps, c'est aussi simple que ça. En tout cas pour ce client nous qu'on visait. Et du coup, on se dit, ok, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on entend des mecs nous dire, ouais, c'est super joli vos pulls, mais à la machine, ça rétrécit, ça bouloche un petit peu. Et donc là, on se dit, vas-y, effectivement, on va essayer de faire le pull parfait. Le pull qui a pas de défaut, qui rétrécit pas, qui bouloche pas, etc. Et donc, on fait un questionnaire. On envoie un mail à tous les gens qui étaient sur 6 et 7 en leur disant, on est en train de créer une deuxième marque, voilà un questionnaire pour nous aider à faire le pull parfait. Et on commence à communiquer là-dessus et voilà, et ça nous permet ce questionnaire d'avoir des inputs clients et de se dire, ok, en fait, les mecs, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent déjà, on leur pose des questions à la fois sur
tout ça.
Ouais, donc il y a des questions de design, genre col rond et tout, mais aussi qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Est-ce que c'est les bouloches ? Est-ce que c'est les rétrécissements ? Et ça permet d'avoir un ordre de priorité de ce qu'ils veulent. Et là, on part en disant, ok, bon, bah, il faut qu'on ait un pull qui passe à la machine, un pull qui bouloche un minimum et que ça soit un col rond qui tienne dans le temps, quoi. Voilà comment on commence à bosser. Et en fait, au début, naturellement, on se dit, bah, on va continuer avec le même fabricant de pulls.
Donc, ce fameux Venezia en Italie. Ouais.
Sauf que nous, ce qu'on fait, c'est que là, cette fois, on prend en main le projet vraiment. C'est-à-dire qu'on veut développer notre propre point de tricot, donc le propre tricotage de la laine. Et donc, notre styliste va dans un atelier qui se trouve à Clamart, qui est l'atelier qui appartient à Stoll, qui est un fabricant de machines à tricoter, machines industrielles. Et il fait une formation chez eux et il développe chez eux pendant une ou deux semaines, je sais plus, des dizaines, des centaines de points de tricot pour trouver le point le plus solide. On arrive à un point hyper, hyper solide. Et là, en fait, on l'envoie à notre fabricant. Il sort un truc qui est une chaussette et on se rend compte qu'il a pas la bonne machine. Donc là, on doit changer de fournisseur et trouver un mec qui a la machine qu'il nous faut et on trouve un fabricant au Portugal.
Et combien de temps ça te prend tout ça? Ça retarde le lancement?
Non, ça retarde pas le lancement. On avait targeté de lancer, moi, je commence vraiment à me dire, ok, il faut que je pivote en janvier-février. En mars, la décision est prise de se séparer de mon associé et de démarrer un autre truc. Et en octobre, le pull est lancé. Donc, ça me prend 6 mois.
Ok, octobre, donc du coup, c'est bon. C'est le retour de l'hiver. tu refais pas la même erreur que la dernière fois.
Exactement. De toute façon, là, on peut pas parce que sinon, on meurt. Donc,
Là, tu t'as ce pull. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour le vendre? Tu fais cette fameuse pub avec. C'était déjà le mannequin signature. comment tu le rencontres?
En amont du lancement, donc justement sur toute la préparation, on se dit ok, on travaille beaucoup sur le ton, on travaille beaucoup sur évidemment le produit et on travaille beaucoup sur l'image. On rencontre 4 ou 5 photographes différents, on rencontre plusieurs mannequins et on se dit vraiment il faut qu'on mette le paquet sur l'image parce qu'il n'y aura pas de boutique, il n'y aura pas d'essayage. Il faut que les gens voient bien le produit, il faut que ça donne envie, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit cohérent avec l'image qu'on a envie de donner à la marque, etc. Donc on passe pas mal de temps là-dessus et le mannequin, on le rencontre. Alors, le mannequin, figure-toi, on le rencontre, c'est un photographe qu'on a rencontré et avec qui finalement on n'a pas bossé, qui nous avait dit by the way j'ai votre mannequin, il nous l'a montré et là on a dit ah ouais putain j'avoue il tabasse. Bon, finalement on n'a pas bossé avec ce photographe là, je sais pas s'il nous en a voulu ou pas, mais
vous avez le mannequin.
Enfin d'ailleurs je l'avais prévenu à l'époque, j'avais dit je lui avais dit évidemment on bossera pas avec toi pour telle et telle raison et aussi on a grave kiffé le mannequin que tu nous as montré, on l'a contacté.
Et t'avais fait une sorte de cahier des charges de ton mannequin, tu voulais un mec la bonne trentaine, barbu.
Alors barbu pas nécessairement, on voulait un gars qui soit, en fait on voulait faire un univers de marque qui soit vraiment masculin, une marque pour mec avec un vêtement solide, tu vois, c'est voilà tout cet imaginaire un peu de robustesse, etc.
Il fallait un mec robuste.
Et on voulait un mec un peu plus âgé, on trouvait ça bien pour plusieurs raisons. La première c'est que l'approche était dit on veut faire un vêtement qui tienne dans le temps, donc il y avait ce côté un peu genre projection, si tu l'achètes maintenant voilà. Il y avait le côté genre notre cœur de cible c'est un gars qui a environ 30 ans, mais en fait un mec de 30 ans ce qui va le faire plus un peu rêver et ce qui est plus aspirationnel pour lui c'est plutôt de voir un mec de 40 ans qui est, tu vois, bien affirmé, bien dans ses pompes, etc., que de voir un gars qui a 20 piges. Et puis aussi parce qu'on l'a rencontré, qu'on s'est super bien entendu, qu'on a kiffé Stéphane et voilà quoi.
Ok.
C'est évidemment ça aussi.
Donc là, tu mets tout en place. T'as le pull, t'as la vidéo, t'as le ton. Il se passe quoi là maintenant?
Alors à nouveau la partie un peu comment on trouve des clients, en fait elle se fait beaucoup en amont du lancement parce que donc nous on a cette base, on a la chance d'avoir cette petite base de clients ou de prospects sur la première marque où il devait y avoir 4-5 000 emails, un truc comme ça. Là on leur dit on va démarrer un nouveau projet et là on sent tout de suite un engouement de ouf parce que justement les newsletters elles ont un ton un peu particulier, un univers un peu particulier, donc les taux d'open et de clics sont bien meilleurs que sur nos newsletters 6 et 7. Et en fait, là, on a ce questionnaire où on dit « aidez-nous à faire le pull parfait » qui marche très très bien et qui récupère beaucoup beaucoup d'emails à la fin, parce que les gens à la fin du questionnaire laissent leur email pour suivre l'avancée du projet. Donc en fait on sponsorise un peu ce truc là sur les réseaux sociaux, donc on a des gens qui rentrent dans le loop, et vraiment on shoot un mail toutes les deux semaines pendant 3-4 mois en amont du lancement, ouais. Où on explique tout le développement du produit. Donc on dit voilà, dans le questionnaire vous nous avez dit ça, ensuite on dit voilà, la laine on a trouvé ça, et donc on explique vraiment tout. Et en fait, le jour du lancement en octobre, on a à peu près 10 000 emails dans la base, et on a déjà shooté une dizaine d'emails, et on a des taux d'open à 50-60% et des taux de clic à 20%. Enfin, c'est assez, okay. Vraiment très élevé.
Et en fait, du coup, t'as pas repris la recette que t'avais de faire des événements physiques, là, t'as tout de suite tout fait en ligne.
Ouais, que du online, ouais.
Et ça marche tout de suite. Raconte-nous cette première campagne.
Ça marche, c'est incroyable, ça marche tout de suite dès le premier jour. C'est-à-dire que donc on lance le premier jour sur Ulule en octobre, il y a un tout petit peu plus de 3 ans. Et le premier jour, on en vend 330, comme ça. Donc la folie, on n'avait jamais vendu sur Ulule, ouais, on n'avait jamais vendu 330 produits en un jour.
Comment tu te sens là ? Toi qui essayes de lancer des collections depuis 4 ans, ça prend pas vraiment, tout est dur, et là d'un coup, ça part comme des petits pains.
Je me sens bien.
Ouais, mais qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, putain, j'ai mis 4 ans à comprendre qu'en fait, il fallait que je fasse ça. Et tu te dis, putain, je suis con, j'ai mis 4 ans, ou heureusement que j'ai passé ces 4 ans-là et que je me suis accroché ?
Pour ni l'un ni l'autre, je me dis, je savoure, quoi, c'est tout. Okay. Je savoure, et en même temps, il faut bosser, c'est que le premier jour. Donc voilà, mais non, je me souviens du soir où je rentre chez moi après le premier jour, je suis en scooter et j'embrasse le ciel, quoi. Je me dis, putain, ça y est, quoi, je sens. Et en fait, j'avais senti quand même un peu j'avais senti justement ce que j'avais jamais senti avec 6 et 7 avant. Je sentais, tu vois, que ça allait bien se passer. Je sentais un engouement et j'étais fier de ce qu'on avait fait. Et ça, j'étais fier comme jamais j'avais été fier de 6 et 7. Donc, okay. Je trouvais, tu vois, ça marchait bien, et en même temps, j'étais très aligné avec le projet.
Et t'avais une vision là sur Asphalt de dire ok, on va sortir un produit par mois, différent à chaque fois, mais qui sera, en tout cas on va le marketer comme le meilleur possible là-dessus. T'avais déjà ça en tête, ou là c'était
dès le début, ça on l'a vraiment dès le tout début, tu vois, quand on présente le projet un peu à des potes pour tester si ça leur plaît, on a un petit PowerPoint où on a genre une liste de 15 produits potentiels. Et on dit le costume parfait pour l'été, pour les mariages, la chemise business, tu vois. Okay, donc on a déjà en tête ça dès le départ, et dès le départ on sait qu'on veut faire de la précommande, et on sait que le premier coup ça va être le plus important, et en même temps d'une certaine manière ça va être compréhensible parce que c'est un lancement en précommande en crowdfunding sur une plateforme de crowdfunding. Ce qu'on se dit aussi, c'est que le deuxième il va être chaud parce que on veut faire du crowdfunding sur notre site, et ça pour le coup à l'époque, ça existe, et d'ailleurs même aujourd'hui encore, hein, ça existe très très peu, quoi.
Donc raconte-nous le deuxième, parce que là, t'es vu comme, enfin en tout cas, tu es l'expert du pull, t'en as fait plein, tu te dis le deuxième produit, ça va pas être un pull, j'imagine.
Non, c'est une chemise en jean.
Et cette chemise en jean, tu l'avais déjà faite avant, dans tes marques ?
Non, j'avais jamais fait de chemise de ma vie, donc là on prend beaucoup de temps pour faire le deuxième produit. Et tu vois, le premier il sort en octobre, le deuxième il sort en mars, sachant qu'on avait déjà commencé à bosser un tout petit peu dessus en amont. Parce que dans la phase justement amont du lancement, on sentait qu'il commençait à se passer un truc. Donc je m'étais dit, tu vois, genre un mois avant le lancement, je m'étais dit ok, c'est peut-être pas idiot de commencer un tout petit peu à travailler sur le prochain produit, parce que si jamais ça marche bien, il va falloir enchaîner.
Mais du coup, là, entre octobre et mars, parce que ta précommande, elle dure de octobre à quoi, à décembre, et après
elle dure un mois, fin octobre, et donc jusqu'à fin novembre, quoi.
Donc tu fais pas de vente en décembre, janvier, février?
Ah non, sur Asphalt, je fais rien.
D'accord, donc t'es à 0 euros de chiffre d'affaires.
Ouais.
Ok. Ouais. Et ça te fait pas peur ?
Ah bah non, c'était prévu comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai pas peur, je suis plutôt très heureux, parce qu'au final, la première précommande, on vend 2438 pulls exactement. Donc en fait, on fait.
Ça t'a marqué.
On fait 240 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, le premier mois d'activité, sur un produit. Enfin, c'est impressionnant, quoi. On hallucine, quoi.
Comment tu trouves les bonnes fonctionnalités de cette chemise, enfin les bonnes fonctionnalités, les bonnes caractéristiques de cette chemise? Tu refais pareil un questionnaire que tu réenvoies à ta base en leur demandant qu'est-ce que vous aimez dans les chemises en jean?
Ouais, exactement. On dit voilà, est-ce que vous préférez une chemise en jean genre western avec des boutons pression et des doubles poches et tout, ou est-ce que vous préférez une chemise en denim un peu plus classique avec des boutons simples et une poche? Et on demande voilà les qualités d'une bonne chemise denim pour eux. Est-ce que c'est épais, est-ce que c'est fin, les délavages, quel genre de délavage ils aiment bien, etc. Ouais, si on fait exactement la même chose.
Et t'étais la première marque à faire ça, parce que moi je connais pas une autre marque qui fait ça en France.
Le côté questionnaire là.
Ouais, le côté finalement tu diminues ton risque de manière énorme parce que tu fais ce que les gens veulent.
Ouais, je pense qu'on était la première, en tout cas, à le faire de manière vraiment systématique et que ce soit le process de développement de chacun de nos produits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui sont au contact de leur communauté, qui posent des questions, mais je pense que l'intégrer comme ça de manière aussi systématisée à un process de développement, je pense qu'on était les premiers, ou en tout cas, je pense qu'on était les premiers, ou en tout cas les premiers à être visibles avec ce fonctionnement-là.
Et ça t'est arrivé déjà de pas être d'accord avec le retour de tes clients, et comment t'as géré ça? Tu dis non mais c'est pas possible, c'est pas ça que j'en veux.
Oui, c'est arrivé. Bah, tu vois, typiquement sur la première chemise en denim, moi je voulais faire une chemise western, donc une chemise avec des boutons pression et tout, parce que moi je trouvais que c'était le vêtement le plus, le meilleur vêtement de la garde-robe.
Ouais.
Et donc voilà, et en fait, tout de suite très bien vécu, en me disant bah non, mais nous notre idée, si tu veux, depuis le début, c'est de rendre la qualité accessible, et pour ça il faut avoir beaucoup de rationalité dans notre modèle de production, etc. C'est-à-dire que si on lance des produits où c'est pas ce que le client attend, on fait pas de volume, et donc du coup on se retrouve avec les problématiques de marque classique où il faut solder à la fin, ou alors t'as pas beaucoup de volume, donc du coup t'es obligé d'augmenter tes marges parce que ton coût d'achat est au-dessus. Donc nous, depuis le début, c'est de dire ok, il faut que ça soit smart, il faut que ça soit au service du client. Moi, je suis pas styliste, je suis pas moi, mon idée, c'est de me rendre au service des gens. S'ils veulent une chemise en denim avec une poche,
t'as mis ton ego de côté.
Exactement, et ça, c'est un truc c'est un truc très fort dans la culture de la boîte, c'est que on n'a pas d'ego, on est une marque sans ego. Et c'est notamment pour le styliste, c'est un truc qui est
dur.
Pas compliqué. c'est dur, c'est un exercice, quoi. C'est de dire ok, je suis là pour rendre service à des clients, je suis pas là pour leur pousser ma manière de voir les choses. Après, évidemment que on a quand même une DA, direction artistique, on a une vision du vestiaire masculin, donc on propose pas des trucs qu'on déteste, tu vois. Quand on propose des choix AB, dans les deux cas on sera content, tu vois. Moi j'étais un peu déçu que la chemise ça soit pas une western, mais ma chemise en denim d'asphalte, je la porte et je l'adore, tu vois, il y a pas de souci.
Mais du coup, tu en es refait dans le western juste pour toi ou pas?
Non, figure-toi. On la fera, on finira par la faire, mais vraiment les gens sont pas chauds pour une western, quoi.
Okay.
Donc un produit, ça sera un produit un peu image qu'on fera, tu vois.
Et du coup, là donc tu fais la deuxième, elles vont bien aussi, et après tu as eu un petit accident industriel au début?
Premier produit donc marche bien, deuxième marche bien, troisième marche bien, quatrième marche bien, cinquième, sixième marche bien. Non, le premier accident il arrive au bout de 2 ans, un truc comme ça.
D'accord. Ouais.
Non, ça allait.
T'étais déjà sûr de ton concept. Et à quel moment tu t'es dit, est-ce que c'est direct après la première vente, tu t'es dit ok, là c'est bon ce concept, on va pouvoir le pousser jusqu'au bout et on va aller très très loin avec, ou t'avais peur quand même?
Non, c'est le premier jour de la deuxième vente où je me dis ça. Parce que le premier c'est le first shot, c'est Ulule, c'est du crowdfunding. Il y en a plein des campagnes crowdfunding qui se passent bien et ça veut pas dire grand chose. Et le deuxième, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il fallait valider l'idée de faire que la marque devienne une marque de précommande et que ça soit pas juste le lancement en précommande. C'est-à-dire que là, on a lancé le deuxième produit sur notre site internet et tu précommandais et t'attendais, quoi. Et là, on a vendu, tu vois, on a vendu 300 pulls, 330 pulls le premier jour. Le premier jour des chemises, on vend 600 chemises. Et là, j'envoie un mail à mon équipe et je dis, ok, genre, c'est bon, c'est validé. Maintenant, si on exécute bien, ça va bien se passer. Mais le message, c'était de dire, si on exécute bien, on va vraiment changer les choses sur la mode, quoi.
Et ma question à ce moment-là, donc, est-ce que tu te dis, waouh, j'ai ce concept, il est bon, je vais devoir lever des fonds? Ou tu te dis à l'inverse, ah non, c'est bon, là c'est bon, je vais m'autofinancer, je vais rester maître chez moi. Comment est-ce que tu te places
à ce moment-là? Je j'y réfléchis pas encore trop parce que en fait, comme c'est de la précommande, les clients payent avant,
t'as pas de BFF.
Le cash flow est positif, donc j'ai pas une nécessité de lever tout de suite. Donc à ce moment-là, j'y réfléchis pas trop. Et ça vient un tout petit peu plus tard, ça vient 6 mois plus tard où en fait je commence à y réfléchir, et aussi parce que je commence à être contacté par des fonds d'investissement. Et du coup forcément on y réfléchit, j'en discute un peu avec mon équipe et tout. Et en fait, maintenant, on est assez sûr de nous sur le fait qu'on a, en tout cas, l'idée, c'est de dire, je sais pas si je lèverai un jour, peut-être que je lèverai, peut-être que je lèverai si on a envie d'une grosse expansion à un moment international ou d'ouvrir des boutiques, etc. Mais pour l'instant, ça se passe très bien comme ça, sans lever d'argent. Avec ce modèle économique, c'est possible d'aller très loin sans lever d'argent. Donc, on va déjà vite. J'ai pas nécessairement envie d'aller beaucoup plus vite que ça. Voilà.
Comment du coup, maintenant que tu es autofinancé, tu gères justement ton risque, c'est-à-dire entre investir, embaucher des gens, prendre des risques et quand même solidifier les bases. Ça, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est une réflexion qu'on a plusieurs fois par jour à se dire, est-ce que je vais assez vite, est-ce que je prends assez de risques, comment est-ce que toi tu fais?
Je suis d'accord. Écoute, je crois que on est à risque hein, depuis le début. J'ai un côté un peu inconscient face au risque, c'est-à-dire que ça me fait pas peur de d'être râle et pâquerette en trésor parce que je suis optimiste et que je me dis que ça va. Donc aujourd'hui, je suis pas du tout dans une situation où je suis beaucoup beaucoup trop safe et que j'embauche pas assez et tout. Je suis plutôt au contraire dans un mood où je suis toujours un peu à la limite quoi.
D'accord.
Et ça se fait assez naturellement. Là maintenant, j'ai une équipe de 15 personnes. Je sais qu'il faut que je commence à être un peu plus dans la réflexion par rapport à ça. Donc là, tu vois, je suis en train de bosser avec mon expert comptable sur vraiment un plan de recrutement calibré d'un point de vue timing en fonction des projections financières. Mais je commence tout juste à vraiment le systématiser. Et j'étais plus un peu au feeling jusque-là et ça s'est bien passé jusque-là.
Okay. Est-ce que tu penses que tu aurais pu monter Asphalt sans les 4 ans de 6 et 7 avant? Je pense que quelqu'un d'autre pourrait monter Asphalt sans avoir une première expérience dans ce monde de la mode pour faire ses propres erreurs, etc.
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que ça va donner envie à des gens de lancer des copycat, peut-être. Je devrais pas dire ça. Non, je pense que honnêtement, pour moi, la barrière à l'entrée, elle est pas très élevée. Ce qui est compliqué et ce qui est beau dans ce milieu-là, c'est que t'as la notion de marque, c'est ce que moi j'adore et c'est ce qui différencie un business comme Asphalt d'un business comme Uber par exemple, tu vois, où en fait Uber ou Bolt, globalement l'expérience est la même, tu vois, si c'est moins cher sur Bolt tu passes sur Bolt, voilà. Donc la différence, elle se fait pas vraiment beaucoup par la marque, elle va se faire par la rapidité d'exécution, etc. Nous, on est protégé quand même par une notion de style, de marque. Donc demain, s'il y a quelqu'un qui fait exactement la même chose, bah, il aura forcément une marque un peu différente de la mienne et peut-être qu'il va prendre de la place sur le marché, mais globalement, ça m'inquiète pas beaucoup. Mais je me suis un peu éloigné de la question, mais tout ça pour dire que je pense que évidemment que mes 4 années, en fait, c'est plus mes 4 années d'entrepreneuriat qui m'ont servi à quelque chose, mais mon expérience dans la mode, elle se limitait à la maille, à la distribution physique. Donc en fait, j'avais pas d'expérience dans le web et j'avais pas d'expérience dans autre chose que de la maille. Donc au final, j'avais pas beaucoup d'expérience.
D'accord. Et autre question, on en parlait un peu tout à l'heure, mais toi, tu verrais, comment est-ce que tu analyses la place de l'ego chez l'entrepreneur?
C'est-à-dire,
il faut en avoir de l'ego pour se lancer. Il faut se dire, moi, j'ai confiance en moi pour réussir là où d'autres ont raté ou pour réussir par moi-même. Mais d'un autre côté, si tu as du mauvais ego, ça peut tuer ton business parce que tu vas te voiler la face, etc. Est-ce que toi, ça a été un souci pour toi? Est-ce que tu as fait un travail là-dessus ou c'était naturel?
Alors non, pas trop. En fait, je pense que quand même l'échec, même si c'est un semi-échec, apprend l'humilité. Je pense que le seul moment où j'ai été un peu trop en confiance dans ma vie, c'était au début quand j'ai commencé à monter ma première boîte, où je pense que d'une certaine manière, j'étais trop en confiance par rapport à ce que je savais, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire rien.
Ouais.
Et en même temps, effectivement, il en faut quoi. Si t'as pas confiance en toi, c'est terminé. Donc c'est effectivement je me pose pas trop cette question d'ego. Ce qui est sûr, c'est que dans mon business, dans la marque Asphalt, encore une fois, le but c'est pas d'avoir d'ego. Donc ce que je me dis vraiment, c'est que je ne travaille pas pour moi, je travaille pour des clients. J'essaie de le répéter à toute l'équipe, c'est la valeur numéro un de la marque. Et voilà. Et après, l'autre chose que je me dis aussi beaucoup, c'est que je suis nul. Enfin, c'est-à-dire que dans 10 ans, quand je repenserai à moi en 2019, je me dirai, putain,
comment j'étais aussi mauvais.
J'étais une chèvre, tu vois. Et donc, du coup, j'essaye de m'entourer, de prendre des conseils de gens qui ont de l'expérience. J'essaye d'apprendre des erreurs des autres et je pense pas tomber dans le panneau du mec trop en confiance en lui.
Ok. Moi, je trouve en tout cas, dans mes expériences, j'ai trouvé que j'ai beaucoup évolué aussi là-dessus, sur ce côté humilité, sur ce côté c'est pas parce que t'as fait des bonnes études, etc., que t'es meilleur que les autres. Et moi, je trouve que de manière générale, dans l'entrepreneuriat, pour un primo-entrepreneur, quelqu'un qui entreprend pour la première fois, c'est un vrai sujet qui est peut-être pas toujours assez évoqué. Cette dualité entre bon et mauvais ego, je trouve.
Ouais, je suis d'accord.
Ça, je voulais ton avis là-dessus.
Il faut foncer, mais franchement, l'humilité, et c'est pareil, tu vois, c'est une des valeurs de la marque.
D'accord.
En fait, c'est vraiment aussi con que ça. Dans 10 ans, tout le monde se trouvera nul. Enfin, tu vois, tout le monde se dira, putain, il y a 10 ans, j'étais nul. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es nul, d'une certaine manière.
Ok.
C'est-à-dire ça sert à rien.
Une petite question un peu plus deep pour terminer. Pourquoi tu t'es fait chier à entreprendre?
Ah bah non, moi je me fais pas faire chier à entreprendre, c'est ma passion.
D'accord.
C'est comme si tu disais à un footballeur pourquoi tu t'es fait chier de footballeur. Tu vois. C'est pour moi la question, elle est aussi. Donc moi non, c'est j'ai encore. Je me souviens qu'au tout début quand je me disais à mes potes ouais je vais monter ma boîte, il y en a qui me disaient putain franchement t'as du courage, et moi en fait je trouvais pas ça courageux du tout parce que en fait je me disais mais non en fait j'ai juste de la chance, c'est-à-dire que je sais ce que je veux faire et du coup ce serait pas courageux de ne pas le faire. Mais en revanche, c'est pas courageux de le faire.
C'est normal. T'aurais fait quoi si Asphalt n'avait pas marché? Si ce concept n'avait pas pris, t'aurais arrêté ou c'était impossible pour toi d'arrêter? Est-ce que t'avais cet échappatoire dans ta tête où tu disais non, mais si ça rate, j'en refais une troisième, une quatrième, une cinquième jusqu'à que ça réussisse?
Ouais, franchement, j'ai jamais envisagé d'aller bosser. J'ai jamais envisagé que ça planterait, je crois vraiment. Tu vois, à aucun moment je me suis fait des surfroides en mode putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. J'ai toujours cru que ça marcherait.
Ok. Et t'as un conseil à ceux qui se lancent, justement, à quelqu'un qui a jamais monté sa boîte, qu'est-ce que tu lui dirais de faire?
Ah putain.
Un mec qui vient de voir avec un concept dans la mode, un peu sympa, tu lui dirais de faire quoi?
Bah c'est difficile de donner un conseil un peu général. Je pense que le meilleur conseil, c'est celui que indirectement Oussama The Family m'a donné dans une de ses vidéos sur le product market fit. Je pense que c'est vraiment le truc clé de l'entrepreneuriat, c'est que si t'as pas de product market fit, ça veut dire que t'as pas de boîte. Et en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas, et c'est aussi con, c'est une théorie qui est extrêmement puissante. Et en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que la seule chose que tu dois faire au début, c'est essayer de trouver un truc où genre, il faut que ça fasse clic, et tu le sens tout de suite. Et donc, tant que ça fait pas clic, il faut que tu refasses, repartes de zéro, mais surtout ne pas s'entêter à essayer de faire marcher un truc qui fait pas clic, quoi.
Okay.
Ça pour moi c'est le meilleur conseil.
D'accord, cherchez le clic. hyper intéressant. Et c'est quoi ton but à terme? Quand est-ce que tu finis le jeu?
Moi mon but c'est de me rendre utile, vraiment. C'est j'ai envie de me dire que ma vie aura été utile, pas que à moi, à ma famille, mais à d'autres gens aussi. Donc voilà, j'ai envie de me rendre utile. Aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat, demain ce sera peut-être l'éducation, ce sera peut-être par, tu vois, un jour j'aimerais beaucoup, tu vois, mon rêve ce serait d'avoir une fondation ou de en tout cas de me rendre utile, quoi. C'est ça mon but.
Ok, c'est vraiment ça qui drive tes actions. Et tu vois où Asphalt à long terme?
Je vois où Asphalt. Je me pose pas vachement la question. Je suis très confiant sur le fait. Je suis très confiant sur le fait que Asphalt ira très loin. La seule chose que je sais pas, c'est que c'est le temps que ça prendra et si moi j'y serai toujours. Ou en tout cas full time, tu vois. Ça c'est le seul truc que je sais pas. Et comme je le sais pas, du coup je me pose pas trop de questions. Mais en tout cas, la chose dont je suis persuadé, c'est que on est sur une route qui est la bonne et qui est une route où Asphalt pourrait être dans 30 ans pourrait être Uniqlo aujourd'hui, tu vois. Ça j'en suis sûr. Je suis sûr qu'un modèle comme Asphalt, une manière de voir la mode comme Asphalt demain est suffisamment puissant pour être Uniqlo dans 30 ans.
Génial. Bah écoute, je pense que ça sera un bon mot de la fin sur ce podcast. Je te remercie beaucoup, William, pour ta franchise et la manière dont tu as réussi à bien parler de tes expériences, que ce soit des succès ou des échecs. Donc merci beaucoup.
Et je
te dis à bientôt, j'espère. Ouais. Et merci à tous nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci. Salut William.
Salut.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.